Chapitre 29. Cet imbécile de Nivoulas. Je trouvais chez moi un mot de Rosette. Au bout d'un jour, à ce qu'il paraît, Nivoulas l'ennuyait déjà. Alors, elle avait eu regret de ses torts et s'était mise en route pour retrouver Jean des Figues. La nouvelle du mariage apprise en arrivant venait de lui porter un coup. Mais elle ne m'en voulait pas, reine étant belle. « Quant à moi, continuait-elle, j'ai failli rester en gage au bras d'or, malgré mon envie de repartir. J'étais si sûre de te ramener, je n'avais pris que juste l'argent du voyage. Heureusement, cet imbécile de Nivoulas, qui me poursuivait avec l'intention de me tuer dans tes bras, est arrivé à temps pour payer la note. Mais ne sois pas jaloux de lui, je l'ai en horreur, il m'aime trop, et le pauvre garçon aura fait un triste voyage. » Puis, en manière de post-scriptum, « Décidément, ce Nivoulas m'obsède, mais j'ai mon idée. J'ai rencontré ce matin mon premier mari, Jeannin, toujours noir comme un mort, et depuis, il rôde autour de l'hôtel. Si je me mettais en ménage, moi aussi, ce serait drôle, n'est-ce pas, Jean des Figues ?» Au-dessous du mot « drôle », près de la signature, il y avait une petite tache pâle, une larme, en forme de poire de bon chrétien. Je n'attachais pas grande importance à ce post-scriptum, ni à cette larme. Je savais la belle capable de tous les caprices, et même au besoin de se faire bohémienne par dépit. Mais je savais aussi que ces caprices ne duraient pas, et j'espérais bien, après une nouvelle lune de miel sous une arche de pont, d'apprendre bientôt sa rentrée triomphale dans Paris. Cependant, mon mariage allait son train, et vous pensez bien qu'il ne m'enthousiasmait guère. J'essayais bien d'abord de me monter la tête à l'endroit de Mademoiselle Reine, mais, outre que le souvenir de Rosette me poursuivait toujours, je ne tardais pas de notre côté à m'apercevoir que Reine, mon blanc fantôme de marquise, le beau lys virginal plein de fraîches rosées, était devenu tout doucement, pendant mon absence à Paris, une vraie petite cocodette de province. Car il y a maintenant des cocodettes partout, grâce aux chemins de fer et aux journaux de mode. Mademoiselle Reine, avec quatre ou cinq de ses amis de pension, la fine fleur de l'aristocratie canto-perdicienne, lisait la vie parisienne au fond des Alpes, chantait Offenbach d'un accent délicieusement provençal, et promenait, le dimanche au sortir des vêpres, sur les cailloux pointus de la place du cimetière vieux, d'invraisemblables robes à fanfreluches. Quelques petits cousins, revenus pâles de leur cours de droit, monocle sur l'œil, pantalon collant, un scie garni d'or à la main pour monter des chevaux de ferme, donnaient la réplique à ces demoiselles. C'était horrible, mais le moyen de se dégager. Mes façons parisiennes et la coupe distinguée de mes cols m'avaient conquis irréparablement la bonne Madame Cabridens. Monsieur Cabridens, qui, sous sa bedaine de notaire, cachait une âme de littérateur, était ébloui de ma jeune gloire. Quant à Mademoiselle Reine, même sans le souvenir de nos amours, elle aurait, je crois, épousé le diable en personne si le diable avait dû la conduire à Paris. Enfin, le jour du mariage fut fixé. Les couturières coururent la ville, on s'inquiéta des invitations. Le pâtissier de la Grand-Rue rêva, en me voyant passer, pièces montées et gâteaux de fécule, et j'allais devenir, sans plus de résistance, le glorieux gendre de monsieur et madame Cabridens, quand, un matin, je vis entrer chez moi, devinez qui ? Nivoulas, mon ennemi, Nivoulas, harassé, suant, et poudreux comme une route départementale. Croiriez-vous que depuis un mois, cet homme de bronze, ce romancier pratique et musculeux, devenu bohémien par amour, suivait Rosette sur les grands chemins, tremblait devant Jeannin, qui ne daignait même pas être jaloux de lui, et poussait aux roues à l'occasion, quand la caravane grimpait une côte? J'eus peur d'abord qu'il ne vînt me tuer, tant son regard, en entrant, était farouche. Mais d'une voix suppliante, qui faisait l'opposition la plus comique avec la fureur de ses yeux, « Venez, Jean des Figues, me dit-il, venez vite, il n'y a pas de temps à perdre. » Et sans me donner d'autre explication, il s'assit sur le bord de mon lit, dans l'attitude de la plus profonde douleur. Puis, comme s'il se fût parlé à lui-même, « Oh, le gueux, oh, le bohémien » murmura-t-il en serrant les poings. « Faire tenir un mulet borgne par une femme !» Miséricorde ! Rosette ! Nivoulas était si désespéré qu'il s'assit et qu'il se leva plus de 20 fois pour me raconter cette lamentable aventure. Rosette, en vendant avec son Jeannin un mulet vicieux sur le champ de foire, avait reçu au sein un mortel coup de pied. Nivoulas l'avait laissée expirante au milieu des bohémiens, à une lieue loin de Canteperdry, dans la caravane d'Etelée. Et c'est vous qui venez me chercher ? Lui dis-je, rouge comme le feu et touché jusqu'aux larmes. Laissez-moi, je l'aime toujours, fit-il en se détournant pour ne pas voir que je lui tendais la main. Mais elle est malade, bien malade, et quoiqu'elle ne m'en ait rien dit, j'ai compris, j'ai cru deviner, Jean des Figues, que peut-être cela lui ferait plaisir de vous voir. Laissez-moi, je l'aime toujours. Comme il me parut grand en disant cela, cet imbécile. Et quand nous arrivâmes au campement des bohémiens, quand les 3 vieilles femmes qu'un peu d'argent avait séduites me montrèrent, en l'absence de Jeannin, Rosette, tout au fond de la caravane, Rosette couchée sur un grabat et pâle comme une morte, quand je la vis ouvrir les yeux faiblement et me regarder, alors un grand remords me prit et j'eus envie de lui crier « Ne m'aimez pas, Rosette !» « N'aimez pas ce misérable Jean des Figues. C'est Nivoulas plutôt, l'imbécile de Nivoulas, qu'il faut aimer. » Mais voyez le divin égoïsme des femmes. Rosette, tout entière à son bonheur, n'eut ni un regard de remerciement, ni un sourire pour ce pauvre garçon qui pleurait silencieusement dans un coin. La nuit tombant, il fallut partir. « Jeannin va venir, » disaient les vieilles. Mais elles me jurèrent que je pourrais encore voir Rosette le lendemain et tous les jours, si je voulais, jusqu'au départ.